Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue. Si vous nous rejoignez sur Europe 1, notre mission, écouter le monde changer, l'observer et vous montrer que c'est vous qui faites bouger les lignes, vous êtes les acteurs de ce changement. Voyagez grâce à des casques de réalité augmentés pour oublier des traitements parfois douloureux, ça s'appelle Feel You, Dora Nana nous dira tout. Et puis en plein examen du projet de loi sur la réforme des retraites, des points chauds subsistent. La prise en compte de la pénibilité au travail dans certaines professions, nous découvrirons des exosquelettes et des robots qui préservent la santé des milliers de travailleurs. C'est ça, la France qui innove, qui crée et qui nous inspire. Et c'est sur Europe 1.
Europe 1.
Bienvenue dans la France Bouge Academy. Ici, vous venez défendre votre projet. Si vous avez envie de vous lancer ou si vous souhaitez tout simplement prendre des conseils, vous avez frappé à la bonne porte. Et pour vous challenger, une équipe est là et vous attend. Dora Nana, bonjour.
Bonjour Elisabeth. Bonjour à tous.
Vous m'accompagnez pendant toute l'émission. Laurent Chouin, DRH du groupe Mazars. Vous êtes le coach du jour. Bonjour.
Bonjour Elisabeth.
Et Jean-David Chamboredon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le CEO et le cofondateur d'Isaï. Bonjour. Et merci à tous d'être avec nous, face à nous, pour ce premier pitch. Bienvenue messieurs, je vous présente Yves Calas. Bonjour Yves.
Bonjour Elisabeth.
Et soyez le bienvenu. Vous avez 62 ans et vous êtes le fondateur de Top Can. Vous avez toujours adoré créer des produits. Il y a 10 ans, en ouvrant une canette de soda, je crois que c'était devant votre ordinateur, vous avez tout renversé. Et là est née l'idée de Top Can, un bouchon hermétique. Je vous laisse raconter votre histoire. C'est parti, vous avez 1 minute 30.
Ok, donc je vais vous parler de Top Can. Donc, c'est une création effectivement, qui m'a valu une médaille d'or au concours Lépine des inventeurs.
Bravo.
Et en fait, effectivement, c'est parti d'un petit incident sur mon ordinateur. J'ai renversé une canette qui était ouverte. À partir de là, donc, je me suis dit il faut trouver une solution pour éviter ce genre d'accident. Alors le Top Can, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un bouchon hermétique qui va s'installer sur environ 90% des canettes européennes. En fait, les canettes qu'on connaît tous, les canettes 33 centilitres standard, les 50 centilitres et surtout le nouveau standard de canettes qu'on trouve partout, qui s'est généralisé, qu'on appelle les 33 slim. Donc un seul modèle unique, enfin toutes les canettes sauf les mini, donc un modèle unique, donc c'est un accessoire en fait qu'on peut utiliser à volonté, hein, réutilisable, et qui va avoir plusieurs avantages. Un des premiers avantages, en fait, comme il est hermétique, on va pouvoir conserver le gaz d'une boisson gazeuse, soda, bière. Donc, ça a un intérêt parce qu'on rentre complètement dans un schéma anti-gaspillage.
Ça va durer plus longtemps.
Voilà, on va garder le gaz entre 24 et 48 heures. Moi, je donne 24 heures, mais les gens disent 48 heures sans problème. Donc, ça, c'est un des premiers avantages. Donc, une question économique. Deuxième avantage, plus d'hygiène. En fait, comme il y a un bouchon, on pourra boire au bouchon et ça évitera de poser les lèvres sur la canette de boisson. Donc, on va transformer la canette en une gourde. Et cette gourde, on pourra donc se promener avec, éviter de la renverser, se balader sans problème, donc partout, à la plage, tous les endroits qu'on peut imaginer, dans les transports en commun et autres. Donc, hygiène, économie. Et aussi, je me suis aperçu que pas mal de personnes avaient des problèmes à ouvrir les canettes. Donc, j'ai intégré également un décapsuleur.
Vous avez intégré aussi un décapsuleur. Merci. Vous avez un petit peu dépassé la minute 30, mais ce n'est pas grave du tout. Je me tourne vers nos experts, vers Laurent et vers Jean-David qui commencent.
Oh bah moi, j'ai déjà une chose que vous n'avez pas dite aussi, c'est qu'on est dans une préoccupation constante et croissante pour l'environnement, pour la responsabilité sociale des entreprises. Et puis, c'est une dimension aussi qui nous permet justement d'éviter d'utiliser des gobelets ou des choses comme ça. Donc là, vous allez tout à fait dans le sens des micro-efforts qu'on peut faire pour aller dans le sens du green. Hein. Donc, c'est un argument supplémentaire, je dirais aussi.
Complètement. Souvent, même les gens ouvrent des canettes, les finissent pas, les jettent n'importe où. Là, ils peuvent installer le système, boire avec et l'emmener à la maison.
Jean-David.
Moi, j'ai une question, c'est une idée super simple. On se pose toujours la question quand on est investisseur, est-ce qu'il y a des solutions concurrentes?
Oui, alors aujourd'hui sur le marché, il existait effectivement des choses, mais ça ne me convenait pas. Les systèmes qui existent sur le marché actuellement, qui
n'étaient pas aboutis.
C'était pas abouti en fait, c'est que des systèmes qui se clippaient. Donc là, techniquement, c'est un système qui va s'emboîter, se clipper avec une mâchoire et en plus avec une bague de serrage. Donc mécaniquement, ça tient vraiment la route.
Donc c'était vous le disrupteur en fait, par rapport à très bonne question.
Voilà. Mais c'est vrai, je suis un passionné, donc je voulais vraiment faire un produit qui soit vraiment abouti, top niveau.
Vous êtes commercialisé, je crois, depuis déjà 3 ans.
Alors en fait, je le présente uniquement sur le concours Lépine des inventeurs. Donc on me retrouve chaque année pendant la foire de Paris, concours des inventeurs. Et je fais une ou deux foires par an. Et Ce qui me manque aujourd'hui, c'est que mon produit n'est pas commercialisé à grande échelle. Et il est plébiscité par les gens. Sur le concours Lépine, les gens viennent me voir, me félicitent.
Mais là, ça pose une question, justement. Vous pensez principalement le vendre directement aux gens, donc en B2C ou en B2B, en fait
Mais c'est dédié à qui?
En fait, donc, le consommateur comprend tout de suite l'intérêt du produit.
Oui, la canette, transformer la canette en gourde, on a tous compris.
Ouais. Alors, le consommateur, aujourd'hui. Mais effectivement, en fait, ce produit, on peut le développer, on peut le vendre en B2C. Ah, mais aussi, ça peut intéresser les industriels, parce que c'est un produit qui peut être marqué, qui peut être identifié. Donc, en fait, on peut très bien imaginer que...
Pour des un gadget.
Un gadget, pour 2-3 packs d'une boisson achetée, on en offre un. Et donc, en plus, ça peut booster les ventes.
Les ventes, donc il peut avoir un intérêt du côté aussi des industriels.
Et pourquoi ça n'a pas été... c'est pas le cas aujourd'hui, parce que là, depuis le temps que vous y êtes dessus, pourquoi est-ce que c'est pas... Pourquoi est-ce que j'ai pas reçu un cadeau avec ça?
Voilà, mais on peut en faire un marqué Europe 1. Hein. Il y avait pas de souci. Ce serait avec grand plaisir. En fait, la difficulté des petits inventeurs comme moi, c'est de toucher les bons décideurs dans les entreprises. Donc, il y a vraiment de l'intérêt. Mais arriver à joindre le décideur qui va dire « Ok, on y va ».
C'est le moment ou jamais aujourd'hui. Là, donc, vous recherchez plutôt des industriels?
Industriels et distributeurs.
Vous vous êtes autofinancé, je crois, pour Topcan?
Oui, pour l'instant, oui. Jusqu'à maintenant, tout à fait. Mais je suis prêt à créer un partenariat avec un industriel. Il n'y a pas de souci, en fait. Un problème pour moi.
Les magasins de sport, ils devraient t'intéresser.
Complètement.
Parce que c'est super, parce qu'on n'est pas obligé d'aller avec sa bouteille d'eau, on peut aussi aller avec sa canette de boisson énergisante. Et là, c'est super, parce que souvent, en faisant du sport, on renverse, enfin, on a besoin que ça soit étanche. C'est vraiment...
Tout à fait. Oui, parce qu'il est 100% étanche, on peut se balader avec, on peut même la jeter. Y a même, je m'amuse, en fait, sur la foire de Paris Concours Lépine, à installer un système, à faire arracher. Les gens tentent de l'arracher, et donc personne n'y arrive, en fait. C'est vraiment solide, quoi.
Aujourd'hui, Yves Gallas, de quoi avez-vous besoin? Le prix, je crois que le prix de votre décapsuleur, c'est 5 euros.
C'est ça, prix public, voilà.
Prix public. Vous avez investi beaucoup d'argent, déjà 25 000 euros,
25
c'est
000
ça
euros.
De quoi avez-vous besoin? Plutôt de financement?
Non, c'est plutôt de la visibilité.
C'est
en
vraiment
fait.
La visibilité.
Visibilité.
Jean-David, que pouvez-vous lui conseiller?
Moi, je suis convaincu que c'est un cadeau et que ça partira dans la logique de cadeau. Donc, il faut trouver des sponsors pour... pour effectivement faire que le produit arrive dans les mains de l'utilisateur et qu'il ne soit pas payé par l'utilisateur. Parce que c'est quelque chose dont les gens ne savent pas qu'ils ont besoin. Ils peuvent adopter une fois qu'ils l'ont utilisé. Et je ne vois pas pourquoi les fabricants de boissons, notamment, ne seraient pas des sponsors parfaits. Parce que expliquer qu'ils ont justement une démarche un peu green, qu'ils évitent le gaspillage, etc. etc. Donc, moi, je suis assez surpris que vous n'ayez pas trouvé des relais commerciaux. Parce que 5 euros pour un cadeau, c'est un petit cadeau. Et on voit bien que ça peut plaire à l'utilisateur. Ouais. Et celui qui est sponsor, par définition, son image, elle est positive. Donc
alors, en fait, ça, c'est le prix public. Mais l'idée, c'est que je m'appuie sur un ami qui a une usine qui me le fabrique pour moi. Parce qu'il est évident que s'il y a des commandes importantes, je ne sais pas financer, en fait. Je ne pourrais pas financer et revendre à un client. Donc, en fait, je préfère me contenter de royalty et je mets le client, l'industriel, voire le distributeur, en contact directement avec le fabricant. C'est un ami. Qui m'a beaucoup aidé à le développer, ce produit-là. Et en fait, je touche un petit pourcentage.
Prenez des commandes, après on verra comment vous voulez financer. Vous avez un gros contrat, ça se finance toujours.
donc on commence par les commandes.
Oui, absolument.
Et puis ensuite, on verra le reste.
Mais par contre, pardonnez-moi, je pense que c'est un produit. Donc j'ai développé aussi un packaging, un blister. D'ailleurs, je suis en train de travailler avec une petite designer pour réutiliser mon blister, le rendre plus vivant, plus attractif. Et en fait, c'est un produit qu'on peut très bien trouver dans le rayon des grands magasins, en cravate. Je crois qu'on appelle ça en cravate, suspendu. Voilà,
donc si des industriels nous écoutent, surtout n'hésitez pas à contacter Yves Gallas, le fondateur de Topcan. Merci d'être venu présenter votre projet dans la France Bouge Academy.
Europe 1.
À suivre, voyager grâce à un casque de réalité virtuelle pendant des traitements médicaux douloureux, c'est la solution pour mieux les supporter et c'est possible grâce à Filio.
Europe 1, la France Bouge. Elisabeth Assayag.
Et si nos personnes âgées pouvaient continuer à voyager grâce à la réalité virtuelle, c'est la solution du jour de Ranana et ça s'appelle Feel You.
Oui, partir en balade, voyager, tout ça sans bouger, en enfilant simplement un masque de réalité virtuelle. Vous l'avez à côté de vous, donc je vous laisse l'enfiler tranquillement. C'est ce que propose l'association Feel You aux personnes âgées dans les maisons de retraite ou dans les hôpitaux, même chez nous, comme vous voyez. Que ce soit en France ou dans les Calanques de Marseille, vous allez pouvoir découvrir, je vous laisse découvrir, Elisabeth, ou à l'autre bout du monde. Ça permet de se relaxer, de s'évader un peu du quotidien et d'oublier parfois, pour un temps, les soins douloureux. Bonjour Virginie Ferrière.
Bonjour.
Vous êtes la cofondatrice de l'association Feel You, donc on l'appelle, hein, c'est F-E-E-L et U en majuscule. Ils ressemblent à quoi ces voyages? On les voit tester, qu'est-ce que vous voyez?
Alors là, normalement, ils sont à la place du randonneur. Ils randonnent tout au long des calanques, donc dans des sentiers un peu arpentés.
Avec une belle mer bleue méditerranée.
Et une mer qui donne envie de plonger. Et effectivement, ils refont des voyages qu'ils ne peuvent plus faire souvent.
Et on voit à 360 degrés, c'est assez. Moi, je l'ai testé avant de rentrer. On peut regarder derrière soi, voir les promeneurs qui sont derrière nous. Enfin, on est vraiment complètement, c'est pour ça qu'on appelle ça immersif. On est en immersion totale.
Absolument. Et le concept, c'est que c'est nous qui produisons nos propres voyages. Donc, en fait, on part avec une caméra là où ils ont envie d'aller. Donc, il y a les Calanques parce que ça a été demandé. Il y a le Mont-Saint-Michel parce que c'est des endroits qui nous ont été demandés également. Donc voilà, on fait les balades qu'ils ne peuvent plus faire.
Et simplement en enfilant ce casque. Donc c'est un masque en fait qu'on pose sur le visage et on le met. Et là, vous lancez grâce à une application, on sélectionne une vidéo, on peut aller où?
Alors, il y a différentes destinations. Effectivement, quand vous dites simplement, la solution Feel You, c'est qu'on a développé la prise en main à distance du masque. Sinon, la personne devrait chercher avec une manette comment...
C'est-à-dire, vous avez développé la prise en main. C'est-à-dire que, par exemple, on est dans un établissement pour personnes âgées?
Absolument.
Comment ça se passe?
Ce qui est important, c'est que la personne va mettre le masque, mais la personne qui peut être moi ou le soignant est à côté avec la tablette, que je vais vous sortir après. Et donc, ils vont pouvoir choisir ensemble le voyage. D'accord. Ça, c'est important parce que d'abord, on a plus de barrières technologiques. Il n'y a plus besoin de sélectionner. Ils ne savent pas le faire et on ne va pas leur apprendre. Par contre, même pour les dents, il n'y a plus qu'à sélectionner et on crée tout de suite du lien autour du voyage. Ce qui fait que le soin disparaît totalement s'il y a un soin derrière. Ou même le moment qu'ils passent ensemble, la discussion va être tout de suite orientée vers le voyage, ce qu'ils ont vécu avant, ce qu'ils voudraient vivre ensuite. Et on recrée l'envie. C'est ce qui manque souvent, quand on est en manque d'autonomie, qu'on ne peut plus faire. Ben on n'a plus envie finalement. Et là, tout d'un coup, ils se retrouvent à faire des voyages qu'ils avaient fait avant et ils nous proposent des choses, donc on les fait. Là, il y a un monsieur qui aimerait... il était pilote d'avion, donc on va faire de l'avion pour lui. Voilà, il y a plein de choses comme ça qu'on peut recréer par rapport à leur vie d'avant.
Magnifique.
Et les utilisateurs, justement, vous rencontrez, parce que vous vous déplacez, il faut le dire, dans les hôpitaux, dans les EHPAD, vous faites des ateliers avec eux, vous montrez le procédé. Et qu'est-ce qu'ils vous disent? Ça réduit quoi? L'anxiété, le stress, comme on a dit, ça fait travailler la mémoire aussi?
Oui, ça fait travailler la mémoire. C'était le premier challenge, c'était de travailler sur la mémoire, parce qu'on les faisait témoigner sur leur patrimoine. Mais au fur et à mesure, on s'est rendu compte que ça recréait du lien social entre eux. Ils avaient envie de participer à la prochaine séance. Ils revenaient aux séances collectives. Et puis, bien plus que ça, effectivement, chez des patients très douloureux, sur des soins très, très longs, on a baissé de 25 minutes à 5 minutes le soin, sans prémédication. On enlevait la prémédication, la douleur.
Mais c'est pour quel type de soins? C'est pour
C'était des soins, souvent des escarres, des soins assez longs, douloureux.
Pour des personnes
pour
alitées,
la personne.
Voilà. Souvent.
Donc là, le lien entre le soignant et la personne est difficile parce qu'à chaque fois qu'il la voit rentrer, c'est pour avoir mal. Et là, tout d'un coup, ils vont partir dans les calanques ou ailleurs.
Que dit notre coach, Laurent Choin?
Je pense que ça ne s'adresse finalement pas qu'aux personnes âgées. C'est-à-dire qu'à terme, l'idée, c'est que dans toute situation de détresse ou de stress, ça peut être intéressant. Je crois même que vous avez fait d'ailleurs, je ne sais plus, ça s'appelle la caravane de Paulette ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire... des fenêtres qui étaient remplacées par des écrans et où là les petits enfants avec les
exactement
les
en fait le POC la preuve du concept a été faite sans masque de réalité virtuelle. On l'a testé d'abord dans une caravane immersive et là effectivement c'était les plus jeunes qui questionnaient les anciens sur leur voyage. Donc les jeunes savaient qu'il y aurait un masque de réalité virtuelle à la fin, mais on avait peur que les personnes âgées soient pas réceptives au masque et donc on l'avait fait dans cette caravane. Donc il y avait plus de fenêtres et ils étaient au milieu de leur village avec leur témoignage. Donc l'ambition était vraiment de relier les jeunes avec les plus anciens autour de leur histoire.
Jusqu'à présent, combien de personnes ont pu bénéficier de votre casque de réalité virtuelle?
Alors là, on le teste depuis 2018. Donc on a plus de 700 personnes qui ont pu le tester.
Essentiellement dans des EHPAD?
Et pas que. Ah, on a travaillé également avec Unicité, par exemple, qui nous permettait d'aller à domicile chez des gens qui ne voulaient plus sortir. Oui. Et là, pareil, revoir la ville, ils ont eu envie de retourner, se balader dans Montpellier, dans Nîmes, etc.
Combien ça coûte, dernier point?
Et oui, alors pour l'instant, on a deux formules. Soit effectivement, on anime en établissement. Et donc là, c'est des animations qui coûtent autour de 600 euros. Ou alors, on propose des formules d'abonnement. qui sont à 99 € pour une année, en fait.
Et comment vous faites connaître? Parce que vous allez vous-même, vous allez prospecter au sein d'établissements, vous êtes sur les réseaux sociaux.
Ouais, on a eu pour l'instant la chance de travailler qu'en partenariat. En fait, c'est un projet de co-construction. Donc au départ, c'est des premiers partenariats qui nous ont permis de rentrer dans les premiers établissements de Languedoc Mutualité. Et puis au fur et à mesure, on a toujours fait travailler la presse, on a toujours aimé avoir ce contact-là. Donc effectivement, on s'est fait connaître comme ça. Et puis d'autres établissements nous ont fait confiance. Et puis voilà, on travaille un peu pour l'instant en partenariat sans faire trop de prospection commerciale.
Laurent, dernier
mot. Moi, ce que j'ai compris, c'est que ça repose pour l'instant beaucoup sur les paysages, mais vous allez vous diversifier. Et il y a une idée qu'on évoquait ensemble juste avant, c'était que pensez aux vieux golfeurs, par exemple. Ouais. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a un endroit reposant, calme et tout. Et c'est les golfs, c'est intéressant. C'est
vous m'avez donné une idée qui est extrêmement intéressante.
Ça s'appelle Feel You. Merci Virginie Ferrière. Vous êtes la fondatrice de Feel You pour permettre aux patients, notamment aux personnes âgées, de faire des voyages immersifs grâce à vos casques de réalité virtuelle.
Europe 1.
Restez avec nous dans La France Bouge. Et si les objets les plus lourds pouvaient devenir légers comme une plume? C'est la révolution des exosquelettes dans les métiers du bâtiment et c'est à suivre dans un instant.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag.
Bienvenue dans La France bouge. Et si les objets les plus lourds pouvaient devenir légers comme une plume? C'est le dossier du jour, c'est la révolution des exosquelettes dans les métiers, notamment du bâtiment. Toute une série d'innovations, d'initiatives sont lancées sur ce sujet. Pour en parler, nous sommes avec notre coach du jour, Laurent Chouin, DRH du groupe Mazars, et Dora Nana, journaliste à la rédaction d'Europe 1. Ils travaillent dans le bâtiment, ils portent des charges lourdes, ils peuvent rester longtemps dans les mêmes positions, les bras en l'air. Bonjour Pierre Davezac.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Je vais vous demander de vous rapprocher un petit peu du micro, comme ça on va bien vous entendre. Vous êtes le fondateur et le dirigeant de l'entreprise Exos. Exos, ce sont, comme son nom l'indique, un peu des exosquelettes, des membres supérieurs pour porter, pour déposer des charges lourdes. C'est un peu ça. Comment on l'utilise?
Oui, c'est ça. Donc, alors, ça vient de ce que connaissent en fait beaucoup de gens, sans forcément savoir le nommer, de ce qu'on appelle le Steadicam, les stabilisateurs de caméra, qui existent depuis plus d'un demi-siècle au cinéma.
Sur
maintenant, vous les voyez
dans les
télévisions, exactement, au bord des terrains de foot.
C'est cette caméra qui est fixe sur un bras et qui se promène, c'est ça?
Voilà, c'est ça. Enfin, la caméra est stabilisée par un moyen mécanique autour d'un ensemble de roulements. Et vous avez un bras qui permet de porter cette charge qui peut aller très très loin, qui peut être de l'ordre de 50 kilos, et de la porter de manière extrêmement confortable. Vous pouvez jouer avec 50 kilos comme si ça représentait dans vos mains environ 400 grammes.
Incroyable.
Et vous avez donc cette charge qui est ramenée sur le corps humain via un harnais avec une répartition qui a fait l'objet de nombreuses études depuis un demi-siècle. Si je vous donne le terme exact, c'est une répartition qu'on appelle scapulo-iliaque, donc un petit peu tout en haut de l'omoplate et beaucoup sur le bassin. Et avec cette répartition d'efforts, vous rendez le port d'une charge quasiment transparente sur le corps humain. Vous ne la sentez pas du tout.
Alors, par exemple, sur un métier concret, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple? Comment ça peut être utilisé par un travailleur?
Alors, on a commencé en 2013 par un poste où il s'agissait de poncer le plafond. Je pense que beaucoup de gens ont déjà fait ça, même à la maison. Donc vous avez mal au cervical, vous avez mal...
La position
évidemment,
est trop longue.
C'est ça, c'est une grosse contrainte posturale, effectivement, que peut très très bien venir soulager un exosquelette qui vient vous soulager au niveau des triceps, au niveau du coude, si vous voulez, sous le coude.
Donc on il est sur nous, l'exosquelette, on l'enfile comme un vêtement.
Exactement, vous avez donc un harnais, vous le portez sur vous. Et vous venez vous accouder dans des exobras qui sont là à disposition et qui peuvent se rétracter quand vous n'en avez plus besoin.
Exobras, c'est-à-dire c'est le troisième bras.
C'est ça, enfin c'est le bras mécanique.
Et notre vrai bras, il se repose dessus, c'est-à-dire qu'on est, on est quand même actif ou pas? Ou on est presque
alors
inerte?
Oui, vous pilotez l'exo, donc vous faites vos gestes habituels.
C'est vous qui le pilotez.
C'est l'opérateur qui
et
pilote.
C'est, et c'est le bras qui porte, le faux
et
bras.
Et c'est le bras qui porte quand on a besoin qu'il porte, qui vous renforce en fait, musculo-squelettiquement parlant.
Vous parliez des plateaux de cinéma, parce que votre idée, elle est partie de là, tout est parti des plateaux de cinéma.
Alors depuis 17 ans, oui, ma société est le seul fabricant français de stabilisateurs de caméras. Donc notre métier à l'initial, c'était de porter effectivement des caméras, cinéma, télé.
Et depuis, vous avez développé, vous avez créé ces exosquelettes. Et là, vous avez même plusieurs gammes destinées à des métiers différents.
Exactement. En 2013, donc c'est parti de là, des mêmes matériels. Donc on a remplacé la caméra par un perfo et on s'est dit, on va s'ouvrir un...
C'est-à-dire
on appelle ça des électroportatifs. Donc c'est tout ce que vous pouvez trouver sur un chantier pour faire des trous, pour meuler.
Donc pour les électriciens, voilà, pour les peintres notamment.
Par exemple. Ouais.
Et là, je crois qu'on peut prendre des charges de 25 kilos et là aussi, c'est ressenti comme 400 grammes maximum.
Voilà, quelques centaines de grammes. Oui, effectivement. Ouais.
C'est incroyable, hein, Laurent.
Oui, c'est intéressant parce qu'Elisabeth, vous avez d'ailleurs dit tout à l'heure pour être travailleur, mais aussi pour être travailleuse. C'est-à-dire que l'avantage, c'était générique, mais ce que je veux noter, c'est que ça permet aussi de transformer certains métiers qui étaient par nature liés à la force et qui là, en réalité, maintenant, peuvent être liés à la précision, par exemple.
Ça, vous, en tant que DRH, justement, Laurent...
Oui, alors, chez Mazars, la charge de physique est assez limitée. On appuie sur le bouton ascenseur, quand même.
C'est-à-dire qu'on
reste en position devant des ordinateurs toute la journée. Enfin, il y a d'autres logiques de ce qu'on pourrait appeler l'humain augmenté, finalement. C'est ça que vous faites, en réalité.
Oui, mais il y a en fait de vrais enjeux. On parlait d'une féminisation, elle existe, c'est une réalité, mais on peut aussi tout à fait parler de ce qui est scientifiquement établi depuis quelques temps, qui est une perte de masse musculaire chez le sujet masculin depuis une génération.
Liée à ces métiers
Non, liée à un changement sociétal. Voilà, l'homme qui n'est plus l'homme
moins,
massif de 100 kilos...
voilà. Enfin, pas tous,
qui peut être voilà.
Pas toi, Laurent. Dora, on parle de pénibilité, c'est le thème de notre dossier du jour. On parle de quoi précisément quand on évoque la pénibilité?
Oui, parce que c'est précis. Hein. Selon le Code du travail, on parle de la pénibilité du travail lorsqu'une personne est soumise ou a été soumise à un risque dans le cadre de l'exercice de son activité déjà. Et la pénibilité, elle se caractérise par une exposition à un ou plusieurs facteurs de risque professionnel, risques qui sont rythme de travail de nuit, par exemple, les 3-8, des postures pénibles, on en parlait, des températures extrêmes, travailler dans le bruit. Et tous ces facteurs doivent être susceptibles de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé des salariés.
Vous avez parlé tout à l'heure de votre exosquelette dédié au métier du BTP pour les électriciens, les peintres. Vous avez sorti plusieurs gammes parce que vous avez dit à chaque métier, il faudrait trouver l'exosquelette qui peut s'adapter à la posture.
Effectivement.
Et à la tâche.
Alors, au jour d'aujourd'hui, malheureusement, un exosquelette qui sache tout faire pour tout le monde, dans toutes les boîtes, dans le monde entier, ça n'existe pas. On est au contraire sur des exos très très monotâches, très très ciblés pour servir telle fonctionnalité et pas telle autre.
Sinon, vous iriez au robot de toute façon. C'est-à-dire que si ça pouvait aller sur plusieurs personnes, l'humain ne serait plus nécessaire dans le process.
Oui, c'est possible. Ouais. Mais en tout cas, oui, le modèle, c'est d'avoir des modules d'exosquelettes, donc des omoplates, des arrière-bras, des avant-bras, tout un tas de systèmes pour le faire fonctionner et de faire, à la faveur d'un audit qu'on réalise chez les clients, la recette de cuisine du meilleur exosquelette possible pour servir tel ou tel cas d'usage.
J'imagine qu'avec l'explosion des livraisons à domicile et des colis, vous avez aussi mis en place une autre gamme d'exosquelettes dédiée aux poignets pour les livreurs?
Alors ça, c'est un autre gros enjeu. On essaie de balayer un peu rapidement tout ça, mais c'est une vraie question.
C'est une vraie question, parce que la livraison des colis, il y a des colis qui sont plus lourds que d'autres, il y a des tâches répétitives aussi.
Oui. Mais vous avez chez les équipementiers, effectivement, cette question de savoir si on ne positionne pas sur toutes les charges une poignée qui permette de les porter directement.
Vous avez fait, je crois, avec Picker, c'est ça, votre
gamme? Picker, c'est l'un des modèles de la gamme qui, effectivement, s'adresse expressément aux logisticiens, donc des gens qui, toute l'année, à longueur de journée, de semaine, de mois, ont à porter et déposer des colis pour ce qu'on appelle palettiser, pour aller fabriquer des palettes ou aller déposer des charges comme ça, les prendre, les déposer. C'est ce qui est de...
Votre compétence, Laurent, c'est de faire le design aussi. Je prends un exemple. Il y a par exemple, un exemple que tout le monde connaît, c'est les caissières en supermarché. Mm-hmm. Sur une heure, elles peuvent porter plus d'une tonne, en réalité. Mais c'est une tonne qui est répartie dans plein de choses. Donc vous, si vous travaillez par exemple avec elles, vous allez observer, regarder comment vous construisez vos...
Exactement.
Vous dites, finalement, comment ils font
Ça commence par effectivement aller voir, travailler les gens, repérer les hauteurs de prise, des poses de charge, les gestes, les postures, l'environnement. De parler avec eux, d'échanger avec eux, ce qui est très très riche aussi d'enseignement lorsque vous parlez vraiment aux opérateurs. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de pénibilité, il y a effectivement cette pénibilité physique telle qu'elle est décrite dans le Code du travail, mais vous avez ce qui apparaît depuis quelques années, depuis peut-être 2-3 ans, la notion de pénibilité en fait psychologique, mentale, c'est ce qu'on appelle les risques psychosociaux, c'est... voilà, placez-vous deux secondes dans la vie de gens qui, toute la journée, toute la semaine, à longueur de mois, d'années, portent et déposent des charges. Voilà, il y a cette notion aussi de pénibilité.
Des troubles musculo-squelettiques aux risques psychosociaux.
Exactement, oui. Et on parlait de robotisation tout à l'heure. C'est pas tout à fait idiot, bien qu'étant fabricant d'exosquelettes, donc pour venir soulager les opérateurs, c'est pas du tout idiot de se pencher très sérieusement à la question de la robotisation. Oui.
On reste ensemble et on continue à parler de pénibilité au travail et des solutions pour améliorer la santé et le quotidien des salariés.
Europe 1.
Nous parlions des exosquelettes, restez avec nous, il existe aussi des robots d'assistance dissimulés dans des sacs à dos et qui changent la vie dans beaucoup d'autres professions, peut-être la vôtre. À tout de suite dans La France Bouge.
Europe 1, La France Bouge. Elisabeth Assayag.
Bonjour Serge Grigorovitch.
Bonjour.
Vous êtes le fondateur de RB3D.
Vous pensez tous.
Eh oui. Ah oui. Ah oui, parce que... Tout a démarré avec ce film pour vous, que vous aviez vu en 1977, je crois.
Oui, j'avais 10 ans.
Et vous avez appelé votre robot RB3D, un petit clin d'œil à R2D2.
Un petit clin d'œil à R2D2 et réellement pour moi ça a été un flash en me disant « Ah ouais, c'est ça que je veux faire » et après j'ai orienté mes études.
Toute votre carrière, tout a été guidé par ce petit robot. Vous fabriquez depuis 2001 des robots pour aider les travailleurs qui sont confrontés à des tâches manuelles répétitives.
Oui. Alors on a commencé par un travailleur qui n'est pas un plâtrier, mais qui est un kinésithérapeute. Et en fait, qui avait mis au point une technique de palpé-roulé qui permettait le soin et d'enlever en fait des douleurs au niveau de ses patients. Et en faisant ça, en fait, il s'était détruit les cartilages.
Oui, parce que le palpé-roulé, on utilise énormément le pouce et l'index.
Et en plus, dans sa méthode, il fallait appliquer des efforts assez importants et de manière continue.
Donc il s'est un peu massacré les pouces, c'est
et
ça.
Par contre, sa méthode est vraiment top. Donc, ses collègues lui disent, mais comment on peut faire pour avoir les mêmes résultats que toi sur différents types de pathologies.
Et là, vous intervenez, vous dites, je vais créer un robot pour aider ce kinésithérapeute.
Alors, c'est un tout petit système. En fait, un genre de... Ça pèse 1,5 kg, ça se met sur le corps de la personne, il y a deux doigts, et c'est électrifié. Et ça vient en fait pincer.
Il y a
ça
encore intervention humaine ou pas?
Et bien sûr. Et le kiné en fait.
Vous les faites cohabiter.
L'effort.
Vous faites cohabiter l'homme et le robot. Puis il y a eu l'arrivée des exosquelettes. Là aussi, vous êtes penché sur la question.
Oui. Alors quelques années plus tard, 2010, on a travaillé avec la direction générale de l'armement à l'émergence en fait d'un projet immense,
qui s'appelle le projet Hercule, voilà,
pour faire en fait un exosquelette, mais cette fois-ci avec des assistances électriques
pour aider porter les charges lourdes que portent les militaires en opération, par exemple.
Voilà, typiquement, on a commencé par l'idée du sac à dos qui pèse de 40 à 50 kilos suivant les cas. Comment aider en fait cet opérateur sur un théâtre d'opération pour porter sans effort cette charge.
Alors comment vous l'avez aidé ?
On l'a aidé en fait en faisant un système. Alors on est un petit peu plus loin que mon collègue en termes de vêtements, mais c'est quand même un système qui est parallèle au corps, des jambes électrifiées.
C'est une forme de combinaison muscles électriques, c'est ça ?
Oui, c'est ça, avec des moteurs électriques à la place des muscles. Et puis,
on peut le voir là en direct sur
Europe 1. Oui, vous insérez dedans. Alors ça, c'est pour le dos, mais c'était une machine un peu plus complexe, un petit peu plus lourde, qui permettait en fait de faire ce port de charge.
Donc on enfile une sorte de combinaison avec des muscles électriques qui vont multiplier, ces muscles électriques qui vont multiplier nos capacités humaines.
Oui, on est en fait le système détecte votre intention, en fait la force que vous mettez dans une action et va l'amplifier.
C'est comme le vélo électrique.
Bon, en fait, oui, c'est le même système.
C'était le premier exosquelette, le vélo électrique.
On a coutume de dire que la bicyclette c'est l'exosquelette le plus abouti.
Dora.
Et là, chez les militaires, du coup, le poids du sac à dos il est réparti entre l'exosquelette et l'humain ou pas du tout? En fait, il est complètement réparti sur ces espèces de jambes électriques. Quoi,
ouais, sur le projet Hercule, le premier projet, en fait, le poids du sac à dos redescendait au sol directement par une structure rigide électrifiée. Donc, il y avait zéro charge sur l'utilisateur.
Et le sac à dos est relié à des jambes électriques, à des jambes humains, d'être humain, c'est
oui,
ça?
Oui, bien sûr.
Et ce sont les jambes électriques qui reçoivent tout le poids du sac à dos. Laurent, notre coach.
Je vois bien les applications, mais c'est intéressant, vous avez dit, il y a eu un départ, une sorte de prototypage dans l'environnement militaire. C'est souvent le cas d'ailleurs. Aujourd'hui, les applications, là, elles sont civiles. Vous, votre intention initiale, c'était spécifiquement de servir des applications civiles, ou vous êtes dit, en fait, non, peu importe, et c'est le progrès technologique qui m'importe.
En fait, ce projet avec la Direction générale de l'armement, c'est un projet qu'on appelle dual, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des applications militaires et civiles. Le gros intérêt, c'est qu'effectivement, il y a des moyens dans le monde militaire qui permettent de faire émerger des technologies qui sont assez difficilement finançables dans le monde civil.
Donc votre modèle économique, en réalité, il est plus sur ce versant-là, c'est-à-dire sur, on va dire, des partenariats public-privé, des choses comme ça, que de directement servir des clients individuels.
Alors, à l'initial, en fait, ça a permis de lancer la recherche et développement dans ce domaine, mais aujourd'hui, on a basculé sur un monde civil de réalisation d'exosquelettes et de robots collaboratifs pour le monde civil.
Ça a été long à mettre en place, hein,
oui, en fait, il a fallu agglomérer pas mal de technologies, de la mécanique, de l'électronique, du software, de la sécurité, pour réussir à faire en fait, des systèmes qui sont le plus transparents possible à l'utilisateur.
Et le moins contraignant aussi.
Voilà, c'est ce qui permet en fait, l'acceptation de ce type de machine.
Aujourd'hui, le système pèse 8 kilos et il va être en test hein, dans plusieurs régiments.
Oui, des opérations de test, notamment dans un régiment du train parachutiste, c'est-à-dire tous ceux qui amènent en fait, les munitions, les vivres, sur les théâtres d'opération en opération extérieure.
Donc très concret, immédiatement, ça peut tout de suite être utilisé.
Voilà, ça s'enfile en 15 secondes. C'est actif, ça protège les lombaires de l'utilisateur dans toutes les opérations. Et Dieu sait que, alors là, dans le monde civil ou le monde militaire, malheureusement, on ne peut pas toujours avoir un dos bien droit pour faire une opération de portée.
Dora. Oui, non, moi, je voulais vous demander, vous avez aussi développé des robots aussi qui permettent, en effet, un peu comme ce qu'on disait, qui complètent un peu notre première invité pour permettre de porter des choses très lourdes, des gros outils dans le BTP, parce que ça aussi, dans le BTP aussi, il y a de la manœuvre. Et puis pour les routes également.
Alors, pour le monde en fait de l'industrie, on a mis au point un petit peu sur le même modèle une technologie qui suit l'intention de l'utilisateur. Alors là, pour le coup, c'est une barre. Et avec cette barre, on va pouvoir transporter des verres très lourds jusqu'à 350 kg, mais en n'ayant pas plus d'effort en fait, et d'inertie et de contre-effet que quelque chose d'un kilo dans la main.
Donc toujours ça, cette réduction du poids.
Oui, voilà, c'est un élément. Et pour la route, c'est aussi un exosquelette. En fait, c'est le premier enfant d'Hercule, on va dire.
C'est pour le bitume.
Voilà, qui sert à étaler le bitume. Alors, l'opération, là, c'est une opération qui est faite manuellement pour réaliser, en fait, l'aplanissement du bitume avant le passage du cylindreur. Et il y a des postes où il y a des gens qui font ça, qui étalent 30 tonnes par jour.
Et souvent la nuit. Et souvent la nuit aussi. Voilà. On reste ensemble, on continue à parler pénibilité au travail sur Europe 1.
Europe 1.
Quelle est la réalité de l'effort que vous faites au travail? Figurez-vous que des bornes existent capables d'évaluer en temps réel sur un écran l'effort d'un travailleur. C'est ça aussi, la France qui bouge. À tout de suite.
Europe 1, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Quand un travail requiert des tâches répétitives très rapidement, les gestes et les postures peuvent devenir inconfortables et ça peut aussi provoquer des maladies professionnelles. Ainsi, pour aider les entreprises à corriger les postes de travail, à limiter les maladies, un entrepreneur a mis au point des bornes qui analysent en temps réel les efforts du travailleur. Bonjour Cyril Danet.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de AIO, AIO qui commercialise votre solution qui s'appelle NUMI, NUM2i. Vous avez mis au point, grâce à l'intelligence artificielle, cette solution capable de mesurer en temps réel les efforts et les contraintes physiques des postes de travail. C'est un peu ça ?
C'est tout à fait ça.
Comment ça marche ?
On travaille donc depuis 10 ans dans l'industrie automobile et on travaille à améliorer l'appréhension de pièces pour les opérateurs à l'aide d'automates mécaniques. Et en 2013, on s'est posé la question comment, à l'heure du big data et de l'IA, on pouvait mieux comprendre cette problématique de pénibilité. Et on a commencé une expérimentation avec un laboratoire français qui est INRIA autour d'une mesure indirecte, si vous voulez, non intrusive pour l'opérateur, de la stratégie de travail, c'est-à-dire d'une observation.
Alors, comment il s'y prend, quels sont ses
exactement,
gestes.
Exactement, à partir de combien de temps il commence à fatiguer. Et l'objectif était d'aller au-delà de l'état de l'art, qui était plutôt un état de l'art, on en parlait tout à l'heure, plutôt une observation statique sur une période relativement courte, de 10-20 minutes. On essayait de comprendre, par exemple, on parlait de la caissière, son travail. Donc on a fait le choix de développer des bornes qui sont totalement autonomes et qui sont interconnectées. Je vous expliquerai pourquoi après, si vous le souhaitez. De façon à mesurer dans la longueur, dans la durée, toute la journée, le travail de la personne, pour comprendre sa stratégie de travail. Et puis, bien sûr, on en a déduit une nouvelle échelle de mesure de pénibilité.
Donc, vous mesurez en temps réel les efforts. Comment ça marche, ces bornes ? Elles sont reliées à un smartphone ? Elles sont reliées à quoi ? Avec un écran ? C'est quoi ? Comment ça marche ?
Vous y êtes presque. Donc, les bornes mesurent à peu près 20 cm. Elles sont autonomes, elles sont sous batterie. On va les positionner dans l'environnement de travail de la personne. Alors, pourquoi plusieurs bornes ? Parce que, quelquefois, la personne peut être caché par
donc par exemple une hôtesse de caisse, vous allez lui placer les bornes autour.
Exactement. Bon, pour une hôtesse de caisse, c'est plus facile. Elle reste principalement à son poste de travail, donc une seule borne pourrait suffire.
Oui, mais elle peut avoir des positions où elle se lève, elle s'assoit.
Mais on n'a besoin qu'une seule borne dans ces cas-là, si vous voulez. On les allume. Il faut 5-10 secondes pour que les bornes s'allument. Et puis, on tend automatiquement sur une tablette. On va pouvoir observer, si vous voulez, l'ensemble de ces... de ses mouvements et de ses efforts en temps réel.
L'environnement aussi dans lequel elle évolue.
On peut effectivement parler tout à l'heure du bruit, on peut mesurer une température qui a une influence, mais relativement limitée, uniquement dans les températures trop chaudes ou trop froides. Et on va pouvoir faire une mesure continue du travail de la personne.
Donc cette borne, ça prend la forme d'un petit robot qu'on pose à côté de cette personne, pas intrusif, et le travailleur finit par l'oublier.
C'est l'objectif aussi, parce que la personne observée, souvent, on va changer ses gestes. Là, on va pouvoir avoir une durée de travail qui est importante et qu'on va pouvoir archiver, bien sûr, avec l'accord de la personne. Et puis, on va comparer le travail des gens. On va pouvoir mieux comprendre exactement les gestes qui sont problématiques dans la longueur.
Mais vous allez en faire quoi ? Après, vous allez corriger ?
Alors,
on en fait quoi des résultats ?
On peut les observer et pouvoir comparer le travail de deux personnes. Si vous voulez, entre un manager et par exemple deux caissières, vous prenez deux caissières.
Mais là, on sait qu'entre un manager et une caissière, ce ne sera pas la même chose.
Non, mais l'objectif est d'avoir une discussion, si vous voulez, autour de cette problématique de pénibilité, grâce à cette observation. Toutes ces données-là sont ensuite renvoyées dans un cloud où on propose donc aux entreprises deux usages. Le premier, c'est un suivi individuel, si vous voulez, de la pénibilité et du travail de la personne dans sa vie dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'une personne travaillant à un poste de travail, où on a sollicité par exemple son épaule droite, où elle a un risque de tendinite, de tendinopathie de Wachhoff des rotateurs de l'épaule, on va pouvoir la préserver parce qu'on sera alerté, si vous voulez, avec le software qu'on a créé, le logiciel qu'on a créé, de cette problématique-là. Et on va pouvoir la déplacer sur un autre poste de travail, par exemple dans une usine.
Laurent Chouin.
Cyril, il y a du diabolique et du merveilleux. C'était ça, sans la question d'Elisabeth. C'est-à-dire que le merveilleux, c'est qu'on sait tous qu'il y a une différence entre ce qu'on demande et ce que ça demande. Entre la description d'un job et puis en fait le vrai boulot qu'on fait. Donc là, vous réconciliez ça finalement, c'est génial. Donc vous permettez aux gens de se réapproprier leur travail. Dans le même temps, on voit bien Big Brother. C'est-à-dire que là, vous allez forcément avoir immédiatement une réaction de représentants de personnel, etc., qui vont dire ouais, « Attendez, vous faites ça en réalité aussi parce que vous allez contrôler. » Voilà. Donc, il y a une question. Comment vous passez au-dessus de cet argument-là ?
Pour l'instant, on n'a pas eu de problème dans l'observation et dans l'échange avec les collaborateurs. L'objectif est que le sujet de pénibilité soit un sujet ouvert entre les managers, l'entreprise et les salariés. D'accord ? Donc, partager une échelle de mesure objective est important. Donc, c'est le choix que nous avons fait au départ.
Là, pour l'instant, vous dites qu'il y a un bon accueil. Vous êtes en test, je crois, dans deux entreprises.
C'est tout à fait ça. Donc, on a commencé à travailler en 2013. La difficulté, c'est que nous sommes sur des terrains plutôt industriels par rapport à notre histoire.
Quel type de tâches ? Quel type de métier ?
Des tâches de montage sur une ligne automobile, par exemple, ou sur des lignes d'assemblage de voilure d'avion,
etc. Du travail répétitif.
Plutôt du travail répétitif, avec des cycles qui peuvent être de 60 secondes ou allant jusqu'à 15 minutes. Donc, on va pouvoir justement... donc, l'objectif des bornes, hein, c'est pouvoir traiter toute cette data hein, en temps réel et puis la filtrer, parce que bien sûr, dans un environnement industriel, on va dire qu'il y a énormément de bruit qui perturbe la mesure.
Ça va intéresser énormément d'entreprises. Vous avez déjà déposé un brevet, j'imagine ?
Alors, on a un brevet mondial. Parce que grâce à ça, donc on a consolidé, si vous voulez, une base de données très importante. On est la première base de données sur le travail humain. Et on parlait tout à l'heure de robotique. On connaît très mal le travail de l'homme. Et cette base de données va certainement faire progresser le travail de la robotique parce qu'on va pouvoir plutôt soulager les personnes sur les tâches qui sont effectivement plus précises et plus répétables.
On l'a vu depuis le début de ce dossier, petit à petit, on a l'impression que les mentalités sont tout de même en train de changer autour de cette notion de pénibilité. Mais Serge Grécorovitch, tout à l'heure, vous nous disiez qu'il faut aussi prendre en compte l'acceptation de l'être humain, du travailleur là-dedans. C'est quelque chose qui est difficile à mettre en place.
Alors tout à l'heure, on parlait de l'INRS. Mmh. L'INRS qui est en train de quantifier 6 paramètres qui font l'acceptation de ce type de machine qui se porte en pratique. Mmh. Et au démarrage, nous, en tant qu'ingénieurs, on imagine tout de suite que qu'est-ce qui fait l'acceptation ? C'est ce qu'on va dire, c'est on peut l'utiliser facilement, puis il y a des performances. Et en fait, il rajoute énormément de dimensions, une dimension d'acceptation sociale, une dimension d'amélioration de sa perception au travail, etc., etc. Et on s'aperçoit qu'en fait, on est sur un sujet qui dépasse bien, dans les grandes largeurs, la problématique simplement de « je porte une charge ».
C'est mal vécu ? C'est mal vécu par certains ?
Oui, il y a une partie, nous par exemple, avec notre exosquelette là, pour étaler le bitume, oui, il y a un pourcentage de gens qui, quelque part, sont réticents et il ne faut pas forcer les gens.
La résistance au changement, hein, Laurent, c'est ça.
C'est classique et il faut impérativement en tenir compte. C'est pour ça que ce que disait Pierre avec la nécessité d'un audit, c'est fondamental. Mais il y a un autre élément.
L'état d'esprit général et les besoins. L'INRS, qui est l'Institut national de recherche scientifique, c'est avec eux que vous travaillez pour pouvoir identifier les besoins.
Oui, il faut savoir une chose, c'est que en fait, la France est en pointe dans ce domaine. Elle a le premier groupe qui s'est constitué au niveau de l'INRS pour faire toutes les recherches actives dans le domaine. Ce qui fait, en fait, aujourd'hui de la France, la deuxième nation dans le domaine des exosquelettes, juste derrière les États-Unis, en utilisant justement tout cet enrichissement.
Et d'une façon générale, puisqu'on s'appelle la France bouge, il faut savoir que depuis toujours, la France est un grand leader dans ce qu'on appelle l'ergonomie, c'est-à-dire les lois du travail. Et donc, Maurice de Montmolin, Casamian, Hubo, tout ça, c'est des vedettes françaises dans le domaine.
Des précurseurs dans le domaine. Connues. Merci en tout cas à tous les trois d'être venus nous présenter vos innovations autour de ce sujet sensible, hein, qui est au cœur des débats en ce moment, qui est la pénibilité au travail. Et là, on le voit encore, même dans ce domaine, les Français innovent et se bougent. Et ça, on adore.